Et nous retournons dans la parole de Dieu, l'épée que Dieu nous a donnée, et nous l'ouvrons dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici la lecture. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que sans le nerf optique, en fait, on ne pourrait pas savoir ce que l'on voit. Sans le nerf optique, on ne pourrait pas savoir ce que l'on voit. Et bien, de même, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment saisir le message de la parole de Dieu. On a besoin de son œuvre dans le cœur et dans nos vies. Alors, pour commencer, aujourd'hui, j'aimerais vous lire une définition et vous allez essayer de deviner le plus rapidement possible de quoi il s'agit. Alors, je vous lis la définition et vous essayez de trouver de quoi il s'agit. Il est tout à la fois une usine chimique, un réseau électrique, une installation de climatisation, une station d'épuration. Le tout commandé à partir d'un élément central, un ordinateur pensant et capable en plus de cela d'aimer et de haïr. Un être dont l'organisme se maintient en vie pendant des décennies, tout en veillant, grâce à une autorégulation permanente, à assurer une fonction sans incident ou presque. Sa composition, 100 000 milliards de particules microscopiques qui présentent une intégration et une harmonie proprement époustouflantes. Quand elles sont saines, elles sont capables de se renouveler en permanence et même de se réparer toutes seules. Cette merveille est maintenue en marche par une pompe de la taille du poing qui bat à raison de 100 000 pulsations par jour, permettant ainsi aux substances nutritives d'être envoyées à travers tout le corps au moyen de 5 litres de sang. Chaque jour, ce sont 20 000 litres d'air qui transitent par nos poumons, leur apportant l'oxygène nécessaire, tandis que le gaz carbonique est expiré, température de fonctionnement normale, 37 degrés. Vous avez tous aisément et depuis longtemps découvert qu'il s'agit du corps humain. Et j'aimerais juste encore vous donner une autre citation très intéressante à ce propos. Le corps humain est un gigantesque réseau de coopération totale et permanente où chaque plus petit constituant de l'organisme assure son propre rôle tout en interagissant positivement avec l'ensemble. Un peu long la phrase, c'est vrai, mais vraiment intéressant ici ce qui est écrit. Le corps humain est une merveille. Le corps humain est une merveille. Comme le corps de Christ est une merveille. Le corps humain, comme le corps de Christ est une merveille. Et l'illustration du corps est puissante pour nous aider à comprendre le fonctionnement de l'Église. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, par Paul, nous l'enseigne dans la Bible. Et nous allons, cet après-midi, prendre du temps pour réfléchir à cette illustration. Qu'est-ce que cela signifie? Hein, nous sommes dans la cinquième prédication sur cette série, l'Évangile de Dieu, l'Église de Dieu, pardon, l'Évangile rendu visible. Nous avons vu que l'Église a une mission 3D, et ouais, une mission 3D pour l'Église, hein, la mission envers Dieu, hein, on a déjà parlé de cette mission, l'adorer, le glorifier, la mission envers ceux du dedans, donc les uns envers les autres, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, et la mission envers ceux du dehors. Hein, proclamation de l'Évangile et de tout le conseil de Dieu. Voici la mission 3D de l'Église. Et pour bien comprendre ce que la Bible nous enseigne sur le sujet, on veut utiliser la même illustration qu'elle utilise. Voilà pourquoi cette prédication est intitulée « L'Église, le corps de Christ », tout simplement. Et nous allons étudier cela en 6 points. Et voici donc le premier. Le premier point qu'on va un petit peu, à lequel on va réfléchir, c'est « plusieurs membres, un seul corps ». Plusieurs membres, mais un seul corps. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam, il a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il a donc créé une femme, une aide, qui soit à ses côtés. Dieu a créé la famille. Plusieurs membres, une femme. Jésus de même voit qu'il n'est pas bon que ses disciples soient seuls. Il met les disciples en fait dans une assemblée locale. Ils sont baptisés, ajoutés à la communauté qui contient des chrétiens riches, des chrétiens pauvres, des chrétiens matures, des chrétiens ayant besoin de maturité. Dieu a créé l'Église. Plusieurs membres, un seul corps. Reprenez avec moi 1 Corinthiens 12, hein. C'est bien d'avoir devant vous, on reviendra plusieurs fois dans ce texte. Nous allons relire les versets 12 à 14. En effet, comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Je vais vous demander de faire un effort d'imagination, qui n'est pas très facile. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Donc vous allez imaginer que vous n'avez jamais vu d'être humain. Essayez. Vous n'avez jamais vu d'être humain. Vous ne savez pas comment il fonctionne ni à quoi il ressemble. Et vous tombez sur un œil qui traîne par terre. Alors vous l'examinez, vous étudiez cet œil, mais que pouvez-vous comprendre de cet œil? Quelle est sa place, à quoi il sert, ce dont il a besoin? C'est un peu difficile quand on voit que l'œil... Et tout à coup, vous tombez nez à nez avec le premier humain que vous voyez de votre vie. Et vous voyez que cet être humain, il en a deux, de ses yeux que vous avez ramassés. Et en étudiant cet être humain, vous découvrez comment fonctionne l'œil. Qu'en fait, il est comme une fenêtre qui apporte au corps tout ce qui est visible. Hein, une fenêtre qui donne pour voir ce qui est visible. Évidemment, donc, l'œil apporte... Le regard, la vue, et en plus le corps, il apporte toutes sortes de nutriments à l'œil. La protection également, l'afflux de sang, les larmes, les paupières, les liquides, en fait, tout ce qui est. Hein. En fait, aucune partie du corps ne peut être étudiée détachée du corps. Le lien avec le reste du corps est essentiel. Je vais faire un petit effort d'imagination, mais je pense qu'on peut le comprendre. Hein. Aucune partie du corps ne peut être étudiée, détachée du corps. Le lien avec le reste du corps est essentiel. Et il en est de même du corps de Christ. Et nous voici face à un principe essentiel. Un principe qu'on oublie malheureusement parfois. Dans un corps, nous ne sommes pas appelés à penser individuellement, mais collectivement. Nous faisons partie d'un seul corps, celui de Christ. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce que je pense individuellement ou collectivement? Alors, lorsqu'un homme et une femme se marient, ils sont deux personnes qui pensent individuellement. Ils se marient. Lorsqu'ils commencent à vivre ensemble, est-ce qu'ils peuvent continuer à penser uniquement individuellement? Non, puisque les actions de l'un auront des répercussions sur l'autre. Ce que l'œil fera aura des conséquences pour tout le corps. S'il regarde une belle voiture qui passe, hein, une belle Maserati qui passe, et qu'il ne voit pas le poteau qui est juste devant, c'est tout le corps qui tape contre le poteau. D'accord. Lorsque nous sommes transformés et ajoutés à Christ, lorsque nous sommes unis à Christ, nous ne pensons plus individuellement. Nous pensons collectivement avec Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque nous sommes ajoutés à Christ, nous sommes ajoutés à son corps, qui est l'Église. Nous ne pouvons donc plus penser individuellement si nous voulons un corps bien ordonné qui fonctionne. Nous ne sommes pas créés pour vivre notre foi tout seul, mais dans le corps, selon la place que Dieu a voulu. On n'est pas créé pour vivre notre foi tout seul, mais dans le corps, selon la place que Dieu a voulu. Et là, vous avez le verset 18 dans 1 Corinthiens 12, qui est un verset clé ici, hein, où il est dit, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui a placé. Pas moi qui ai choisi. C'est Dieu qui a placé dans le corps. Donc, chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Nous sommes rachetés pour faire partie du corps de Christ. Je suis un membre du corps et la manière de vivre ce membre, elle va affecter tout le corps, hein, comme on l'a vu avec l'œil et tout le corps avec le poteau. Car l'Église, c'est plusieurs membres, mais un seul corps. Plusieurs membres, un seul corps. Voilà, c'était notre premier point. C'est pas très long, hein. On peut aller au suivant. Puisqu'il y en a six, il ne faut pas qu'il soit trop long, bien entendu. Alors réfléchissons maintenant à la diversité des membres. Plusieurs membres, différentes fonctions. Or là, on va revenir un petit peu avant. On va aller dans l'épître aux Romains. Vous pouvez garder un petit doigt dans 1 Corinthiens 12. Mais on va aller dans Romains, et c'est aussi au chapitre 12. Ça, c'est pratique, hein. Où est-ce qu'on parle de l'Église en tant que corps? Ben 12, les 12. Romains 12, 1 Corinthiens 12. Donc Romains 12, verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors le merveilleux corps humain nous permet de saisir que tous les membres du corps ne sont pas identiques. Je crois qu'on arrive à s'en rendre compte, hein. Si vous regardez même à côté de vous, ce n'est pas un œil qui est à côté de vous, ou un paquet doré, ou quelques orteils. Non. Un corps est formé de plusieurs membres différents, qui ne sont pas identiques. Et chaque partie a été créée par Dieu pour une fonction particulière. Chaque membre du corps n'a pas que la vue, ou chacun n'est pas capable de saisir des objets. Est-ce que vous arrivez à saisir des objets avec votre mollet? Ben non. Mais la main peut le faire. Des fonctions différentes. Chaque membre du corps a été conçu pour une fonction particulière. Et il en est de même dans l'Église. Chaque membre du corps a été conçu pour une fonction particulière. Et il en est de même dans l'Église. Et c'est la richesse de l'Église. C'est la richesse de l'Église. Ces dons différents mis au service commun, comme dans un corps humain. Un corps a plusieurs membres qui ont différentes fonctions. C'était notre deuxième point. Et nous passons à notre troisième point qui souligne un aspect important de la mise en commun des dons reçus. Plusieurs membres pour l'utilité commune. Plusieurs membres pour l'utilité commune. Chacun est utile et amène de la reconnaissance lorsqu'il met son don au service du corps. Par exemple, chacun est reconnaissant pour les oreilles qui entendent, les yeux qui voient, les mains qui ont de multiples fonctions, le cœur qui bat, enfin pour faire tout le tour, hein, du corps. Et si le nez détecte, par exemple, qu'il y a du gaz, ici par exemple, et que ça commence à sentir très très fort le gaz, eh bien tout le corps va s'éloigner pour ne pas être intoxiqué. Et la main, le pied, l'estomac, le tibia, enfin tout ce qui compose le corps sera reconnaissant au nez d'avoir détecté le danger et de s'en être allé. Si on revient à 1 Corinthiens 12, hein, je vous ai dit, on revient toujours dans ce texte, 1 Corinthiens 12, au verset 7, vous voyez très clairement, l'apôtre Paul le souligne, donc inspiré par l'Esprit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune. Dieu veut bénir l'Église, alors il donne des dons à chacun qui les met au service de l'Église. C'est ainsi que Dieu bénit l'Église. Il ne bénit pas l'Église en donnant tous les dons à une personne. Il les donne à chacun qui les mettent en commun. Les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous-mêmes, mais pour le corps de Christ. Les dons qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous, c'est pour le corps de Christ. Notre temps, notre argent, nos capacités n'existent pas pour nous-mêmes, mais pour le bien commun. Une gestion qui est saine et bonne selon Dieu, bien entendu. Si je reçois un paquet chez moi, contenant des livres de chant, et sur ce paquet, il est écrit à l'intention de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Alors, même si ce paquet arrive chez moi, c'est pas pour moi, mais pour vous, aidez-moi, pour l'église. Dieu m'a donné des dons, la capacité de prêcher, d'organiser, etc. Mais c'est pas pour moi, parce que c'est écrit sur le don à l'intention de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Pour leur bien commun. Chaque don que nous avons reçu porte en fait la même étiquette. Pour l'église réformée baptiste de Neuchâtel, pour leur bien commun. Ou si vous êtes dans une autre église locale, pour l'église locale, pour leur bien commun. Donc, ce troisième point nous a aidé à comprendre que ce que nous avons reçu a une étiquette, est destiné au corps duquel nous sommes membres. Et le quatrième point va maintenant souligner la dépendance les uns des autres. Plusieurs membres et tous ces membres dépendants les uns des autres. Aucune partie ne peut survivre sans les autres. Et ce n'est pas accidentel, ce n'est pas le produit de l'évolution, mais c'est le dessein de Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère. Aucune partie de notre corps ne peut survivre tout seul. On a besoin du reste du corps. Et le verset 18 de 2 Corinthiens 12 souligne clairement que chaque partie est placée dans le corps comme Dieu l'a voulu. Cela est valable pour le corps physique comme pour le corps spirituel. Dieu a créé des corps, des membres du corps dépendants les uns des autres. La main a besoin du cœur, les doigts ont besoin du bras, les pieds ont besoin des poumons. Enfin, voilà, et continuez. Nous sommes créés de manière extraordinaire. Chaque cellule étant connectée aux autres. Cette dépendance mutuelle est également valable pour l'Église. Personne n'a tous les dons. Sinon, un seul membre suffirait pour être un autre. Non, Dieu a donné tous les dons nécessaires à l'Église en les distribuant aux différents membres. Tu as reçu quelque chose que j'ai besoin, j'ai quelque chose que tu as besoin. Cela n'enlève rien, que nous avons tout pleinement en Christ, ça c'est sûr. Mais dans sa sagesse, il nous manifeste sa grâce par les dons qu'il a donnés à une autre partie du corps pour nous. Donc Christ nous manifeste sa grâce par les autres membres de son corps. Un peu comme un puzzle, hein, chaque pièce est importante et contribue à former l'image représentée. Alors lorsque chacun met au service du Seigneur et des autres membres du corps les dons qu'il a reçus, chacun reçoit les grâces que Dieu donne à l'Église. Lorsque chacun met ce qu'il a reçu du Seigneur au service des autres membres du corps, chacun reçoit les grâces que Dieu donne à l'Église. Je reçois les grâces du Christ par vous tous. Et chacun peut dire qu'il les reçoit par tous les autres. Et cette interdépendance des membres de l'Église est intentionnelle. C'est le dessein de Dieu. C'est ainsi qu'il a imaginé l'Église. Donc ce quatrième point nous permet de saisir toute l'importance que les autres ont pour moi et celle que j'ai pour les autres dans l'Église. Et à ce point, il est important de nous pencher sur un cinquième point qui nous aidera à nous regarder et regarder les autres d'une manière adéquate, d'une manière juste, d'une manière selon Dieu. Et ce cinquième point, c'est plusieurs membres, tous importants. Aucun membre de l'Église ne devrait déprécier son propre rôle ou celui de l'autre. Autrement dit, relisons les versets 15 à 16 et 21-22 dans 1 Corinthiens 12. Si le pied disait « Pas je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Ça, c'est de la dépréciation personnelle. Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et ensuite, verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Vous savez, il est facile de nous comparer avec les autres. Je compare avec quelqu'un d'autre et de se déprécier. J'ai dû m'en repentir d'ailleurs. Et que le Seigneur me garde de dire cela. Je ne peux pas prêcher ou enseigner. Je n'ai rien à faire ici. Je ne suis qu'un pied, pas une bouche. Je ne sers à rien. Je ne suis qu'un bras, pas une oreille. Mais Paul, non. 2 Corinthiens 17, il dit, mais c'est n'importe quoi. Si tout le monde était un œil, il n'y aurait pas de corps. Si tout le monde était une oreille, il n'y aurait pas de corps. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu pour la bénédiction de l'Église. Chacun a un rôle important à jouer. Chacun un rôle important à jouer. Même les plus petites parties du corps ont des fonctions importantes. Nous avons dans le corps un os sinusal qui n'est pas très connu du grand public, bien caché, qui est d'une grandeur insignifiante par rapport au corps. Son travail est de transmettre des impulsions électriques. Grand chose. Si le nœud sinusal se disait « je suis pas une bouche, je fais rien », eh bien les impulsions ne seraient plus transmises au nœud auriculo-ventriculaire et les ventricules du cœur ne fonctionneraient plus. Notre cœur cesserait de battre. Nous avons besoin du nœud sinusal et nous voulons qu'il fonctionne comme Dieu l'a voulu. Qu'il commence pas à faire autre chose, mais qu'il fasse selon ce que Dieu a créé. Qu'il ait une fonction vitale alors qu'il semble insignifiant, et même que on le connaît même pas. Il n'y a pas de partie non nécessaire dans le corps de Christ. Tu ne peux pas dire que tu ne sers à rien. Pense à ce qui se passerait si tous les membres du corps de Christ que nous formons tourneraient à plein régime pour le bien commun. Si toutes les parties du membre d'un corps fonctionnent à plein régime, c'est quoi? C'est la santé du corps. Eh bien, pour l'Église, ce serait même un réveil. C'est le réveil dans l'Église quand toutes les parties du corps fonctionnent à plein régime selon ce que Dieu a prévu. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu, nous dit 1 Pierre 4:10. Nous sommes des intendants de tout ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes donc responsables de l'utiliser pour le bien commun. Pensez au nœud sinusal, hein, insignifiant. Mais en faisant son travail, il permet à tout le corps de vivre. Si personne ne doit se déprécier, personne ne doit non plus regarder les autres de haut. On peut lire les versets 21 et suivants. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y avait des gens à Corinthe qui regardaient les autres de haut, qui disaient « Ah, moi j'ai le don de parler en langue, le don de prophétie, en fait, j'ai pas besoin des autres. Même si c'est vrai, ils apportent peut-être quelque chose à l'Église, mais en fait, moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin. » Le verset 21 est assez clair. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Mettez une petite poussière dans l'œil, vous verrez s'il n'a pas besoin de la main ou des larmes. La tête ne peut pas dire aux jambes « j'ai pas besoin de vous ». Imaginez qu'il y a un incendie. Que ferait la tête sans les pieds? Elle serait bien embêtée. Elle n'aura aucune chance de fuir. C'est vrai que lorsqu'il y a des dons plus importants, le risque de l'orgueil se présente aussi plus facilement à la cour de cette personne. Mais personne ici dans l'Église ne peut dire qu'il n'a pas besoin des autres. Personne. Quand nous réalisons que Dieu a équipé l'Église des dons nécessaires en les distribuant à ses différents membres, on commence à comprendre notre besoin des uns et des autres et notre utilité dans l'Église. Vous savez, je grandis dans le Seigneur lorsque je vois des personnes servir le Seigneur dans l'Église avec zèle et consécration. Je grandis dans le Seigneur en moi. Je grandis lorsque vous me dites ce que Dieu a fait dans votre vie, lorsque vous avez appris dans les Écritures. Je grandis lorsque je porte vos fardeaux avec vous, lorsque vous me posez des questions en lien avec la parole de Dieu. Je grandis ainsi. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Chacun est précieux, important. Et Jésus est autant mort pour chaque membre de l'Église. Il n'est pas mort un peu plus pour l'un puis un peu moins pour l'autre, non. Il a payé le grand prix pour chacun. Parfois, ce que nous donnons à l'Église n'est même pas mentionné, ou même oublié. La préparation du repas du Seigneur, les fleurs, l'organisation de la course d'école, les affaires administratives de l'Église, les différents services rendus. Mais Dieu ne les manque jamais. Il ne les manque jamais et les récompensera. J'avais un très cher frère qui nettoyait l'Église, que j'aime beaucoup, et un jour, je le voyais nettoyer l'Église, et puis je lui dis, écoute, vraiment, je te remercie pour ton travail. Il dit, stop! Arrête-toi! Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais Moi, je veux la récompense de Dieu, pas la récompense des hommes. Et ça m'a marqué. Je me dis, mais il avait compris qu'il était préférable de remplir son compte en banque divine. C'est pas pour ça qu'on n'ose pas dire merci, bien entendu. C'est encourageant. Mais son but, ce n'était pas de recevoir des merci. Son but était de le faire devant Dieu, qui lui voit dans le ciel. Et en plus de la récompense que Dieu donne, dans le ciel, les principautés, les pouvoirs célestes s'intéressent à tout ce qui se passe dans l'Église. Savez-vous ça? Que les principautés, les pouvoirs célestes s'intéressent à tout ce qui se passe dans l'Église, et ils le voient, et c'est ainsi qu'ils connaissent la sagesse de Dieu. Ce n'est pas de moi, c'est Éphésiens 3:10. Donc c'est ainsi que même les puissances célestes peuvent voir la sagesse de Dieu. C'est en regardant l'Église. C'est Dieu qui l'a mis en place. Nous avons besoin les uns des autres. Donc faisons la chasse à l'orgueil et à l'égoïsme, parce que l'orgueil et l'égoïsme, c'est des casseurs de dos. Terrible. Faisons la chasse à cet orgueil, cet égoïsme dans nos propres vies. N'allez pas faire la chasse chez les autres. Faisons-la chez nous. Cherchons l'unité, étant un corps avec des membres tous importants. Soyons concernés les uns par les autres. Si quelqu'un perd un être cher, eh bien nous souffrons avec. Si un autre manifeste sa foi dans l'Église par le baptême, nous nous réjouissons avec. Rappelons-nous, j'ai besoin des autres parce que Dieu leur a donné des grâces pour moi. Et les autres ont besoin de moi car Dieu m'a donné des grâces pour eux. C'est ainsi que nous terminons ce cinquième point qui s'intitulait « Plusieurs membres tous importants ». Et nous terminerons par une réflexion engageante en trois étapes que j'intitulerai « Pour qu'un corps de plusieurs membres fonctionne ». Pour qu'un corps de plusieurs membres fonctionne, eh bien nous sommes appelés, première étape, à nous impliquer dans la vie des autres. Je vous invite à vous impliquer plus encore dans la vie des autres. Il n'est pas possible pour un membre du corps de vivre dans l'isolement. C'est pas impossible de vivre dans l'isolement. Prenez un doigt, mais enlevez-le du corps. C'est pas possible. Et si je parle d'implication, c'est simplement parce que le Nouveau Testament nous donne des indications de comment le faire. C'est pas n'importe comment, hein, c'est clair. Mais le Nouveau Testament nous en donne toute une liste, toute une série. Vous pouvez en trouver des dizaines. J'aimerais vous en donner quelques-uns en frappe ici. Si quelqu'un aimerait les références, je lui donne volontiers tout à l'heure. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Estimez-vous mutuellement supérieurs. Honorez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Priez les uns pour les autres. Consolez-vous les uns les autres. Vivez en paix les uns avec les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Soyez bons les uns envers les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et l'on pourrait encore continuer en cherchant dans le Nouveau Testament. Et il n'est pas possible de vivre tout cela en étant isolé des autres. Mais quelle grâce d'apprendre à vivre cette communion, petit à petit, petit à petit. Et je vous encourage à pas venir ici à l'église le plus tard possible, ou même partir très rapidement, mais d'aménager du temps pour une communion où nous partageons nos joies, nos peines. C'était la première étape, s'impliquer. La deuxième étape, c'est servir et non être servi. La parole prêchée, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous prépare à toute œuvre bonne. Nous sommes préparés pour servir, non pour être servis. Comme Christ d'ailleurs l'a montré en lavant même les pieds de ses disciples le jour avant de donner sa vie pour nous sauver. Et Jésus a même dit que si quelqu'un donnait un verre d'eau au plus petit de l'un des siens, c'est comme si on l'avait fait à lui-même. Servir et non être servi. Et la troisième étape, je dirais, c'est la plus importante. La plus importante, c'est être connecté à la tête. Vous enlevez tous les membres du corps qui ne sont pas connectés à la tête, il y a un petit problème. Ils n'arrivent pas bien à fonctionner. Pour qu'un corps fonctionne de manière coordonnée, il faut une tête et que les membres soient dirigés par cette tête. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est celui qui bâtit, qui donne la force, qui transforme, qui montre l'exemple, qui est la pierre de l'angle, qui dirige parfaitement. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Rien du tout. C'est comme un corps décapité. Mais avec lui, nous pouvons vivre l'Église comme un corps uni, avec des non-membres actifs selon la place que Dieu a voulu pour chacun en son temps. Parce que dans l'Église, c'est pas tout à fait comme dans le corps. Dans le corps, des fois, il n'y a pas de changement. Ma main restera ma main jusqu'à ma mort. C'est juste. Dans le corps de Christ, dans l'Église, il peut y avoir des changements dans notre vie. C'est vrai. Des changements que Dieu permet dans notre place, dans les dons que l'on peut aussi donner dans l'Église. Et en conclusion, j'aimerais simplement dire que je me réjouis de voir actuellement ici à l'Église réformée baptiste de Neuchâtel un corps avec des membres actifs pour le Seigneur. Et je prie pour un réveil dans notre Église, dans notre région, dans notre pays. Un corps qui a plusieurs membres, qui a sa place, selon, comme il est dit au verset 18 de 1 Corinthiens 12, selon que Dieu l'a placé, comme Dieu l'a voulu. Nous allons encore prier ensemble. Ô Père éternel, quelle grâce d'avoir ta parole qui nous éclaire, ta parole qui illumine nos pensées. Cette illustration du corps que tu as donné par l'intermédiaire de ton serviteur, l'apôtre Paul, nous aide à tellement mieux comprendre ce qu'est l'Église selon toi. Nous te remercions parce que si nous formons un seul corps, c'est parce que c'est toi qui nous unis. Si nous formons un seul corps, c'est parce que l'Esprit de Dieu, nous avons le même Esprit. Oh, nous te remercions parce que c'est un don de ta part. J'aimerais te prier de nous aider à vivre simplement dans ce corps tel que tu le désires. Que nous puissions petit à petit entrer dans le chemin que toi tu veux. Merci Père, parce que tu permets à chacun dans son étape de progresser à la vitesse que toi tu veux. Et nous te remercions, nous te louons pour cela, parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui renouvelle. Mais rends-nous Seigneur conscients que nous puissions avoir une pensée qui ne soit pas individuelle, mais collective, centrée sur toi. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.